Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à la vespérale de Radio Kapi. La ville d'Uvira est désormais de retour entre les mains du pouvoir de Kinshasa et celui-ci a annoncé la mise en place d'un programme de rétablissement progressif de l'autorité de l'État. Les entreprises sont régulièrement victimes d'insécurité à Kalemie, province du Tanganyika. La Fédération des entreprises locales ne supporte plus et appelle aujourd'hui ses membres à une fermeture des activités. La lutte anti-érosion en République démocratique du Congo a peut-être trouvé son nouvel outil pour faire des miracles dans ce domaine. Il s'agit de la plante Juntao, originaire de Chine, qui stabilise le sol en quelques semaines. Clément Chechuam Muntuabu, partenaire technique de l'utilisation de cette plante en République démocratique du Congo, nous en dit plus dans un instant. Bonsoir à tous. Le gouvernement de la République démocratique du Congo annonce la mise en œuvre d'un plan de restauration progressive de l'autorité de l'État dans la ville d'Uvira et ses environs, intégrant des mesures sécuritaires, judiciaires et humanitaires coordonnées en vue de rétablir durablement la sécurité, de protéger les populations civiles et de favoriser la stabilisation de cette partie du territoire national, une décision qui intervient à la suite du retrait forcé du M23 de la ville d'Uvira, retrait qui lui-même a été précédé par des pillages à répétition et vols à grande échelle. Élise Kavira.
Pour le gouvernement congolais, ce retrait n'est pas à considérer comme la fin de l'agression, ni comme une modification de la situation sécuritaire générale, plutôt comme un développement ponctuel. Il soutient que la seule perspective acceptable demeure le départ total, effectif et sans condition de l'AFC M23 et l'armée rwandaise de l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo. Dans le but de rétablir l'autorité de l'État, le gouvernement de la République démocratique du Congo affirme que les retours progressifs des FARDC, de la police nationale et tous les services de sécurité se poursuivent dans la ville d'Uvira et ses environs, conformément à leur mission, notamment assurer la sécurité des personnes et leurs biens et contenir les effets néfastes résultant du chaos programmé laissé par l'AFC M23. Dans son communiqué publié ce lundi 19 janvier, le gouvernement congolais dénonce la déportation des populations civiles, notamment les membres de la communauté des Banyamulenge, dont certains ont été forcés de quitter la ville d'Uvira par l'AFC M23, dont l'objectif de se servir d'eux pour justifier leur présence sur le sol congolais.
Entre-temps, les territoires de Fizi, Uvira et Mwenga dans la province du Sud Kivu continuent de recevoir plusieurs milliers de déplacés internes et l'administrateur du territoire de Fizi, par exemple, estime le nombre de ces déplacés à au moins 1 500 000 personnes. Sami Kalonji Badibanga plaide en faveur d'une assistance humanitaire à ces déplacés internes qui mènent une vie difficile à l'instar de leurs compatriotes réfugiés au Burundi et en Tanzanie. On l'écoute au micro de Jean Kassam.
Nous relançons de nouveau les appels au gouvernement central, au gouvernement provincial, à la communauté des humanitaires de comprendre que nos mamans qui sont enceintes, certaines donnent naissance dans des écoles et églises. Nous avons les enfants qui ne poursuivent plus la scolarité. Les jeunes filles, leviers et les femmes meurent à cause du choléra parce qu'il n'y a pas les intrants. Nous avons la rougeole aussi qui décime les enfants. Nous avons mis à la disposition de toutes nos autorités la cartographie et les statistiques de tous ces déplacés internes dans les territoires de Fizi. Ce que nous ne comprenons pas est que les membres du gouvernement central ils arrivent directement au Burundi où nos compatriotes de Fizi et d'Uvira ont trouvé refuge. Mais nous avons les déplacés internes qui sont très nombreux ici à Fizi, mais le membre du gouvernement n'arrive pas à se déplacer pour pouvoir consoler tant soit peu ces déplacés internes et leur apporter assistance.
Justement, ces milliers de déplacés internes sont concentrés dans le territoire de Fizi sur les axes Mboko, littoral, lac Tanganyika, Fizi centre, Kwamulima, Sebele, Nemba, Kikombe et Lulimba, Kilembwe. Dans la province du Nord Kivu, une vingtaine de civils ont été blessés lundi lors d'une attaque menée par des hommes armés dans le village de Keyeye, à proximité de Nyanzale. C'est dans la chefferie de Buito, territoire de Rutshuru. Selon plusieurs sources locales, les victimes avaient été mobilisées par le M23 pour participer à des travaux communautaires. Elles ont été prises pour cible dans une embuscade qui visait, selon ces mêmes sources, ces mêmes M23. Nancy Tambo pour les détails.
Partie de Nyanzale et Kiondo, plus d'une trentaine d'hommes et de femmes devaient participer à des travaux visant à dégager les alentours du village de Kiyeye et Kitunda, dans le groupement de Kiondo. Selon nos sources, il s'agissait de détruire des bananeraies et autres couverts végétaux pour des raisons présentées comme stratégiques par l'FCM23, lequel viserait à priver les groupes armés locaux des hommes de camouflage autour de ces positions. Cependant, vers 9h locales, avant même le début des travaux, le site de Salongo a essuyé une attaque violente attribuée au Azalendo collectif des mouvements pour les changements CMC. Pris sous des tirs croisés, au moins 20 civils ont été grièvement blessés. La plupart ont été conduits au centre de santé de Nyanzale, tandis que d'autres auraient référé vers le centre de Buonda et Mushibiri. Des sources locales évoquent également plusieurs morts, sans toutefois avancer de bilan précis pour l'instant. Un membre du conseil territorial de la jeunesse de Rutshuru condamne non seulement cette attaque, mais aussi la pratique devenue courante dans la région. La destruction systématique des bananeraies de population à de fins militaires. Selon lui, cette pratique menace directement la survie économique des ménages, la banane constituant l'une des principales sources de subsistance pour les familles locales.
Dans la même foulée, la société civile du territoire de Beni dénonce la recrudescence de l'insécurité dans la commune rurale d'Oicha, chef-lieu du territoire situé à une trentaine de kilomètres de la ville du même nom. Selon cette structure, depuis le début de l'année, plusieurs cas d'assassinats ciblés et de vols à main armée y ont été enregistrés. La société civile appelle les autorités à renforcer la protection des populations. Javier Kassayirio, rapporteur général de la société civile du territoire de Beni, dresse un bilan préoccupant au micro de Papi Martial Moukeba.
Les chiffres que nous avons par rapport à la criminalité urbaine liée aux assassinats ciblés, on est aux environs de 6. Il y a 2 motards, il y a 1 commerçant, il y a 3 qui sont dans cette association de transactions monétaires qu'on appelle Airtelman. Mais il y a aussi 4 blessés qui sont enregistrés depuis le début de l'année dans ces camps de criminalité urbaine. Il y a plus de 18 maisons qui ont été victimes de ces vols à main armée dans la zone. Après les analyses, on a compris qu'il y a d'abord le jeune du milieu qui sont aussi derrière cette menace, mais qui sont aussi associés à certains éléments des FARDC incontrôlés qui sont visibles dans la zone. Certains sont identifiés parmi des unités qui étaient basées jadis dans la zone, dont mais leur commandement pas dans la région, mais continuent à errer sans être contrôlés. Et d'autres sont parmi les récalcitrants comme dans toutes les sociétés. Mais aussi, il y a la question des autorités. Nous avons recommandé qu'ils doivent bien jouer leur rôle.
À ce sujet, pour l'instant, aucune réaction des autorités locales de la commune rurale d'Oicha n'a été obtenue. Dans la province de l'Ituri, plusieurs cas de violence de droits humains attribués à au moins 14 groupes armés sont enregistrés depuis le début de l'année 2026 dans la chefferie de Babila Bakwanza, territoire de Mambasa. Dans son rapport de monitoring publié aujourd'hui, l'ONG Convention pour le respect des droits humains fait état de tueries, enlèvements, tortures et menaces dont sont victimes les civils au quotidien. Martial Kiza.
Les cas graves les plus récents remontent au 5 janvier dernier, lorsqu'une équipe de Wazalendo, basée au village de Mamulembo, a procédé à l'arrestation arbitraire de 2 personnes avant de les soumettre à des actes de torture. L'une des victimes a succombé à ses blessures. Selon la CRDH, le 15 janvier, un homme d'une cinquantaine d'années a été enlevé puis tué dans son champ par des hommes armés à Kibénété. La même source rapporte que dimanche dernier, 2 groupes de Wazalendo se sont affrontés sur un carré minier dans la localité d'Elota, faisant une dizaine de morts et de blessés parmi les civils, d'importants dégâts matériels ainsi que le pillage d'une importante quantité d'or. Rams Maliki Dogo, représentant de la CRDH à Babilaba Kwanza, condamne ces graves violations des droits humains subies par la population. Il appelle à la restauration de l'autorité de l'État dans plusieurs entités de la chefferie de Babilaba Kwanza, en fait de mettre un terme à ces pratiques.
Et c'est la population maintenant qui est en train de souffrir. C'est ainsi que vraiment nous lançons un appel au gouvernement de pouvoir traquer tous ces groupes armés.
Aucune réaction officielle de l'administrateur du territoire de Mambasa n'a encore été enregistrée. Bounia, Martial Kizabiamongu, Radio Okapi.
Nous vous l'avions dit à l'introduction de ce journal, dans la province du Tanganyika, les activités commerciales ont été paralysées aujourd'hui dans la ville de Kalemie à l'appel de la Fédération des entreprises du Congo. Par cette action, la FEC Tanganyika veut dénoncer la montée de la criminalité à Kalemie, dont ses membres figurent parmi les victimes. Plusieurs sources locales indiquent que la majorité des commerces sont effectivement restés fermés. Le point avec Paulin Munanga.
Un habitant qui a sillonné une grande partie de la ville de Kalemie décrit la situation.
À part les motocyclistes et les taximens qui font le transport en commun, mais aussi les pharmacies, on constate que les activités commerciales à Kalemie sont fermées. 90% allant du marché Katanga-Kivu, passant par le boulevard Lumumba, où il y a beaucoup de boutiques dans les centres-villes, et aussi arrivé au plus grand centre d'activité à Kissé, où il y a un grand marché aussi, les boutiques qui sont dehors, aucune activité commerciale. Donc, le mot d'ordre donné par la FEC a touché tous ces coins.
Signalons que la FEC Tanganyika a adressé une correspondance au maire de Kalemie le 15 janvier dernier, lui annonçant la cessation des activités commerciales du 20 au 21 janvier, en signe de protestation contre la montée de la criminalité. En outre, la FEC réclame le respect du principe de redéveloppement dans tous les secteurs et particulièrement celui du péage à l'entrée de la SNCC vers les ports publics, peut-on lire dans la correspondance. Nous n'avons pas pu obtenir la réaction du ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité du Tanganyika. Lubumbashi, Paul Munanga, Radio Okapi.
Dans le même ordre, les conducteurs de mototaxi de la ville de Kananga ont aussi observé une grève ce mardi. Selon plusieurs d'entre eux, le mouvement a voulu dénoncer les tracasseries dont ces motards se disent être victimes de la part de la police. Ils accusent cette dernière d'immobiliser leurs engins sans motif valable et d'exiger des amendes allant de 100 000 francs congolais à 500 000 francs congolais pour leur restitution. André Katende.
Depuis les matins de ce mardi, presque aucune moto-taxi n'est visible sur les rues, voire les taxi-bus. Les conducteurs de mototaxis observent un mouvement de grève pour dénoncer ce qu'ils qualifient des tracasseries policières répétées dont ils disent être victimes ces derniers jours.
La tracasserie est devenue de trop. C'est la police de la circulation routière qui saisit les motos, mais aujourd'hui ce sont tous les services de la police. Et pour aller récupérer, on demande 500 000 francs ou 300 000 francs.
300 000.
Cette situation affecte fortement la population. Élèves, travailleurs et étudiants sont contraints d'effectuer les trajets à pied pour rejoindre leur lieu d'activité. Certains arrivent en retard, tandis que d'autres ont préféré rester à la maison au regard des longues distances à parcourir.
Nous étudions à Katamba là-bas, mais quand il n'y a pas de transport en cours de route, il n'y a pas les moyens de partir.
Nous allons arriver en retard parce qu'il n'y a pas les transports.
Dans les points chauds de Kananga, des éléments de la police sont déployés et des véhicules d'intervention sillonnent les principales artères de la ville afin d'étouffer la marche prévue par les conducteurs des mototaxis. Nous avons tenté en vain de rencontrer les commissaires provinciaux de la police. Kananga, André Katendengala Moulumé, Radio Kapi.
Dans la province du Congo central, c'est depuis 3 jours que les robinets sont à sec dans plusieurs quartiers de la ville de Matadi. Cette pénurie d'eau potable perturbe la vie quotidienne de plusieurs familles qui doivent se débrouiller pour puiser de l'eau, soit dans des bornes fontaines ou encore directement dans le fleuve. Dans un communiqué de la Régie des eaux rendu public lundi, la Régie des eaux explique que cette situation est consécutive
à l'arrêt du fonctionnement de ses usines de production d'eau dans la nuit de dimanche 18 janvier 2026 après une panne sur les réseaux électriques de la Société nationale d'électricité SNEL. Le récit est de Nana Purichmambu.
Les quartiers secoués par cette pénurie d'eau potable sont ceux desservis par l'usine fleuve de la Régie des Eaux, laquelle est à l'arrêt depuis dimanche 18 janvier à la suite d'une panne sur les réseaux électriques de la SNEL. Il s'agit notamment du quartier Mambote, Momo, Nord, Kassou, Kinkanda, Dalias, Biwewe, Belvedere, Oebeka et Kitomessa. À moins de 3 jours sans eau potable, les réserves d'eau se sont épuisées et la population de ces quartiers court déjà dans tous les sens avec les récipients en main en quête de cette denrée vitale. Témoignage.
Nous souffrons depuis le dimanche soir où il y a eu une panne à la Régie des Eaux. Nous avons entendu que les agents sont à pied d'œuvre pour tenter de résoudre la situation. Force est de constater que jusque-là, aucune amélioration n'est faite et ça commence à en pâtir un peu avec les attentes de la population que nous sommes parce que c'est tous les jours que nous utilisons de l'eau et les réserves commencent à s'épuiser et ça c'est ce qui nous dérange de plus en plus.
La Régie des Eaux de son côté rassure que ses équipes techniques sont en collaboration avec celles de la SNEL et poursuivent les interventions sur l'usine fleuve afin de décanter la panne. La Régie des Eaux promet un retour progressif à la normale dans les heures qui suivent. Matadi, Nana Pluriche Mambu, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le gouvernement togolais a confirmé aujourd'hui avoir extradé vers le Burkina Faso l'ancien président de transition de ce pays, l'ex-lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, renversé en 2022 et accusé depuis d'être le cerveau de plusieurs tentatives de putsch.
L'invité.
Le gouvernement provincial du Kasaï central a lancé mercredi dernier le projet de lutte anti-érosive basé sur l'utilisation d'une plante naturelle appelée Juntaon pour lutter contre les têtes d'érosion à Kananga. Clément Checham Muntuabu, partenaire technique de ce projet, indique que ces racines de cette plante originaire de Chine stabilisent le sol en 3 mois. Il s'agit d'une solution naturelle et moins coûteuse pour lutter contre les centaines de têtes d'érosion qui menacent la ville. Clément Checham Muntuabu répond aux questions de André Katende Galamulum.
Monsieur Clément Checham Muntuabu, bonjour.
Bonjour monsieur.
Aujourd'hui, vous venez lancer une activité. De quoi il est question?
Il est juste question de lancement du projet de lutte anti-érosive sur base d'une plante naturelle, Juntaon, qui est une invention chinoise pour éradiquer à 98% des érosions sur la ville de Kananga. C'est une plante qui a beaucoup de vertus, mais pour le moment, nous avons pris un seul vertu qui consiste à éradiquer les érosions. Parce que notre sol étant mouvant, il est en train d'être emporté par les eaux de pluie. Nous avons dit, avec beaucoup de technologies, on a dépensé beaucoup de millions en termes de dollars avec la construction des buses, des caniveaux, avec les dépenses en termes de beaucoup de millions de dollars pour acheter les ciments, les graviers, les moellons, les fers à béton. Malgré ça, le sol n'est pas stabilisé. Mais ce que nous faisons, c'est pour stabiliser net le sol. Que 3 mois, c'est une plante qui a 9 mètres de profondeur avec des racines comme des nattes. En bas là-bas, ça bloque net le sol. On va remblayer, on plante encore, on récupère le sol que l'on peut encore utiliser éventuellement. Mais on construit une maison, une école qui est emportée par les eaux de pluie.
Combien de têtes d'érosion sont concernées par ces projets?
Bon, pour la ville de Kananga, la province, c'est le lancement officiel. Néanmoins, on avait une expérience. Quand vous êtes dans la résidence des dernières de la SNTC, la maison était menacée de disparition par l'érosion. On a stabilisé ça net. Aujourd'hui, là, ils sont en paix. C'est stabilisé, mais comment ça construit dessus?
Il y a déjà des projets de lutte anti-érosive au niveau de la province qui sont même déjà lancés. C'est notamment le projet PURIC. Et aujourd'hui, vous apportez les projets Juntaon. Comment allez-vous vous y prendre?
Juntaon, c'est une spécialité à part entière. Par contre, ce qu'ils ont fait là, vous parlez aux gens de penser de l'argent. Juntaon ne demande pas l'argent. Juntaon demande seulement les paix de moyens pour l'achat des boutures, les ramener ici et planter, c'est fini. Et maintenant, quand on a planté comme on a fait là, c'est à eux maintenant d'aller voir avec les fonds qu'ils ont là. Au lieu de commencer à construire les caniveaux, ramener l'argent là pour commencer à rembler les ravins dans lesquels on a planté le Juntaon pour récupérer le sol. Juntaon aide à récupérer le sol. Ce qu'il faut construire là ne récupère pas le sol. Nous, on récupère le sol et aussi on peut éventuellement construire ce sol-là. C'est l'avantage et la différence. Donc, eux-mêmes, ceux qui font là-bas, ils ont comme besoin de Juntaon parce que dans l'avarie urbaine qu'ils font là-bas, avec génie civil, pour protéger les sols à côté de ce qu'ils ont construit, il faut planter, il faut stabiliser ce sol-là. C'est pour ça que vous voyez qu'ils ont construit un caniveau. Après un temps, il y a plus de jeunes qui arrivent, pas pour s'emporter les caniveaux. Mais d'une taille, quand c'est planté, même à côté de ce qu'ils ont construit là, c'est stabilisé, il n'y aura pas de dégâts. C'est l'avantage que nous avons.
Vous avez dit que ça, c'est l'étape pilote. Qu'est-ce que vous comptez faire dans les jours à venir?
Bon, on doit inventorier les ravins dans la province. Il y en a près de 800. Néanmoins, on nous a dit que il y en a qui sont pris en charge par les projets publics. Nous allons voir avec eux, parce qu'ils ont besoin de nous pour protéger les sols. Quand ils sont construits là-bas, à côté, là, ils n'ont rien fait. Quand le pluie viendra, il va emporter encore les sols. Nous plantons notre plante là, à côté, là, il n'y a pas de dégâts. Et nous, l'avantage, c'est quoi? De récupérer d'abord les sols. On récupère les sols, et on peut, vous avez produit votre parcelle, par exemple. N'est-ce pas, emporté par la pluie. Et maintenant, quand nous plantons le juntaou, et on remblaye, on replante encore, on a mis les sols à la même hauteur, à la même surface, et vous pouvez récupérer votre parcelle là, et vous construisez dessus.
Quel message vous lancez à la population de la ville de Kananga?
À la population, nous demandons l'accompagnement. Juntaou, c'est une plante qui demande beaucoup d'eau. Je pense que nous sommes au mois de janvier, après, nous aurons une petite saison sèche. Là, il faut arroser partout où nous avons à planter. Que la population nous accompagne, qu'ils ne voient pas que ce sont des histoires qui doivent être laissées à elles-mêmes. Nous ne serons pas chaque jour, mais la population doit nous accompagner. Nous venons planter. Quand vous êtes là-bas, arroser seulement, ça ne coûte rien. Et maintenant, quand c'est certains trois mois, vous allez voir que si c'est à côté de la maison, là, c'est déjà stabilisé. Maintenant, on va maintenant couper. Maintenant, on remblaye les ravins là. On plante encore, on remonte jusqu'à arriver à la hauteur. La surface du sol normal. Et vous récupérez votre parcelle.
Comme Juntaou est une plante, il y a possibilité de multiplier les boutures. Avez-vous pensé à la population pour pérenniser cette lutte?
Nous avons sollicité un espace au niveau du gouverneur pour nous donner au moins 20 hectares où on peut planter, avoir un parc à bois qui sera là pour aider tout le monde. Comme ça, quelqu'un qui a besoin de ça, il peut aller là-bas. Ça sera déjà une autonomie. Comme ça, même dans votre parcelle.
Nous vous disons merci.
Merci, je vous remercie.